Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Tollé international après la décision du Royaume-Uni. Le Parlement vient d'adopter une loi controversée sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. L'ONU demande au gouvernement britannique de reconsidérer son plan. Londres veut faire décoller ses premiers vols vers Kigali dans 3 mois. Après 2 ans de bras de fer, le Parlement britannique a donc fini par adopter un projet de loi hautement critiqué.
The eyes to the right, 312. The nose to the left, 237. So the eyes have it, Unlock.
Ce projet doit permettre d'expulser des demandeurs d'asile entrés illégalement en Angleterre. Londres mise en fait sur cette solution extrême pour dissuader les migrants qui traversent la Manche à bord de petits bateaux pneumatiques. Des hommes, des femmes, parfois des enfants, qui sont arrivés sur les côtes britanniques au péril de leur vie. Quel que soit leur pays d'origine, ils pourront être expulsés à près de 10 000 km de là. Au Rwanda.
C'est l'une des informations de la nuit, elle est très importante. Le Parlement britannique a donc adopté un texte drastique de lutte contre l'immigration clandestine.
Tous les demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique seront expulsés vers le Rwanda, qu'ils soient afghans, soudanais, kurdes ou albanais, et ce, en vertu d'un accord avec Kigali.
Le projet de loi a été défendu ardemment par le Premier ministre Rishi Sunak depuis le début de son mandat. La Chambre des Lords, où il faut le préciser, les conservateurs n'ont pas la majorité, a retardé l'adoption définitive du texte en le renvoyant sans cesse à la Chambre des communes avec des amendements. Écoutez ici le député Tim Farron.
Il s'agit d'une législation horrible, cruelle, inepte et coûteuse. Nous devrions voter l'amendement. Le gouvernement devrait céder.
Un ping-pong interminable qui a donc pris fin peu après minuit. Ce mardi 23 avril, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique.
Le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. Bien sûr, c'est plus tard que ce que nous voulions, mais nous avons toujours été clairs sur le fait que le processus prendrait du temps. Et si les députés travaillistes n'avaient pas passé des semaines à retarder le projet de loi à la Chambre des Lords, nous aurions entamé ce processus il y a plusieurs semaines déjà.
Ce plan avait été annoncé en 2022 par le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. Il était alors présenté comme une mesure phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine. Ce mardi 23 avril, dans la foulée de l'adoption du texte, le gouvernement de Kigali a réagi et s'est dit satisfait. La porte-parole du gouvernement, dans un communiqué transmis à l'AFP, a ajouté que les autorités étaient impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda. Pourquoi le Rwanda ? Quel est l'intérêt pour le pays d'accueillir ces migrants ? Et surtout, question fondamentale, peut-on faire cela avec des êtres humains ? C'est-à-dire payer un gouvernement extérieur pour qu'il accueille ces hommes et ces femmes qui ont déjà fui leur propre pays. Ce qui est certain, c'est que cette décision est une première en Europe. Même si on le rappelle, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Le continent n'a jamais sous-traité la question de l'asile ou de l'accueil des migrants à un pays tiers. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, sur BFM TV.
C'est une idée qui inspire la droite européenne, le Parti populaire européen qui siège à Strasbourg et à Bruxelles, et séduite par l'idée de comme ça pouvoir sous-traiter un pays tiers la question des migrants. Mais c'est un accord qui a été signé entre la Grande-Bretagne donc et le Rwanda, parce qu'on le répète.
Oui, on échange quelques
150 millions d'euros. Le Rwanda va prendre en charge l'accueil et l'examen des demandes d'asile des migrants que lui donnera le Royaume-Uni.
Annoncé en avril 2022 par le gouvernement conservateur de Boris Johnson, le projet n'a jamais été mis en œuvre. Et in extremis, un premier avion a été bloqué. Nicolas Poincaré, dans le podcast RMC, expliquez-nous le monde.
Le premier charter devait partir avec 130 passagers à bord, des clandestins donc qui, contre leur gré, allaient être envoyés au Rwanda. Finalement, ils ont fait des recours individuels jusqu'à la dernière minute. Finalement, il n'y avait plus que 7 passagers qui devaient partir. Et puis, De nouveau, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté d'examiner un recours et le charter a été annulé à la dernière seconde. Mais c'est partie remise parce que le gouvernement anglais a bien dit sa détermination à continuer le processus.
Alors, qu'est-ce qui a changé la donne? Pourquoi finalement le texte a-t-il fini par être adopté? En décembre 2023, déposé à la Chambre des communes, le projet de loi Safety of Rwanda, Sûreté du Rwanda, a contourné une décision de la Cour suprême qui estimait que le pays n'était pas considéré comme un pays sûr. En quelques mois donc, le gouvernement britannique de Rishi Sunak a signé un nouveau traité avec le pays. Et le Rwanda est désormais défini comme un pays tiers sûr. Le 17 janvier 2024, Rishi Sunak s'adressait au président du Parlement après que la Cour suprême ait jugé illégal le projet dans sa version précédente.
Monsieur le Président, j'ai la conviction absolue que le plan que nous avons mis en place fonctionnera. La conviction absolue parce que je crois qu'il est important que nous nous attaquions à ce problème.
Une grosse somme d'argent est sur la table. Le Rwanda, dirigé par le président Paul Kagame, doit recevoir plusieurs centaines de millions d'euros de la part de Londres dans le cadre de cet accord. En 2022, le gouvernement rwandais avait présenté les hôtels où devaient loger les migrants transférés par Londres. Nicolas Poincaré.
Les premiers arrivés doivent être logés dans un hôtel de Kigali qui s'appelle Le Désir, un petit hôtel avec une piscine et qui offre la pension complète, 70 euros par jour. Ce sera payé par le gouvernement britannique. Tout cela, eh bien, c'est fait pour calmer les polémiques, pour montrer à la presse internationale que le Rwanda sait recevoir et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
Mais que va-t-il se passer ensuite? Y a-t-il réellement une possibilité que le Rwanda intègre ces personnes déjà déracinées de leur propre pays? Ce texte est en tout cas vivement critiqué par des ONG et des institutions de protection des droits humains. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a appelé le gouvernement britannique à reconsidérer son plan et à prendre plutôt des mesures pratiques pour lutter contre les flux irréguliers de réfugiés et de migrants. Bonjour Cécile Ducourtieux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondante à Londres pour le journal Le Monde. Ça y est, donc, après des discussions très vives au Parlement, le projet de loi Safety of Rwanda a donc finalement été adopté définitivement par les députés britanniques. Comment expliquer d'abord que les débats aient duré si longtemps?
Alors, ce texte, donc Safety of Rwanda, a été présenté en décembre dernier. Il a donc fallu 4 mois pour qu'il soit adopté à la fois par les députés et par les lords. S'il y a une telle résistance au Parlement britannique, surtout de la part de la Chambre haute, donc de la part des lords, c'est parce que ce texte est extrêmement controversé. En fait, ce texte vise à rendre opérationnel l'accord Rwanda qui avait été signé il y a 2 ans exactement par Boris Johnson, qui était alors le Premier ministre britannique, avec les autorités rwandaises. Et cet accord n'a toujours pas été rendu opérationnel. Cet accord devrait permettre d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda pour que leur demande y soit examinée là-bas. Et en fait, cet accord a été déclaré illégal par la Cour suprême britannique le 15 novembre dernier. Donc, a priori, cet accord n'était pas... ne pouvait plus être mise en œuvre à l'époque. Mais Rishi Sunak, qui est le nouveau Premier ministre britannique depuis à peu près un an et demi, s'est entêté, en fait, parce que cet accord Rwanda est la principale politique migratoire qu'il a proposée aux Britanniques. Et donc, il a proposé ce projet de loi qui, en fait, vise à contourner cette décision de la Cour suprême britannique.
Oui, c'est ça, en fait, il y a une ligne qui va tout changer dans ce texte qui dit que le Rwanda est un pays sûr. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Toute cette histoire est assez complexe. C'est pour ça que je suis obligée de faire des allers-retours. Donc, ce qu'a dit la Cour suprême britannique le 15 novembre dernier, c'est que le Rwanda n'était pas un pays sûr au regard du droit des réfugiés, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile qui étaient envoyés au Rwanda et qui avaient un dossier d'asile consistant, c'est-à-dire que le fait d'être envoyé dans leur pays d'origine présentait un risque pour eux, pour leur vie, eh bien, leurs droits n'étaient pas assurés au Rwanda parce que le Rwanda pourrait ou aurait pu les refouler vers leur pays d'origine, ce qui est totalement interdit par les conventions sur la protection des réfugiés. Donc, la Cour suprême a déclaré illégal l'accord Rwanda parce que le Rwanda n'était pas un pays sûr à date, c'est-à-dire en 2023. Donc le gouvernement britannique propose, rédige un projet de loi qui dit que le Rwanda est un pays sûr, c'est-à-dire qui affirme quelque chose qui a été démontré comme faux par les juges de la Cour suprême britannique. Donc c'est pour ça que ce projet de loi est tellement controversé, parce qu'il pose des questions constitutionnelles fondamentales, c'est-à-dire les juges britanniques n'ont plus le droit de revenir sur ce projet de loi, qui en fait écrit des faits qui ne sont pas prouvés. Et puis par ailleurs, ce projet de loi donne un droit absolument exorbitant aux ministres britanniques, c'est-à-dire qu'il leur donne le droit de passer outre des injonctions de la Cour européenne des droits humains, des injonctions par exemple pour empêcher une expulsion au dernier moment.
De nombreuses instances internationales sont vent debout, vous l'avez dit. Il y aura sans doute de longues batailles judiciaires, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, un avion, hop, ça va prendre du temps.
Alors, Rishi Sunak hier matin a convoqué les journalistes pour affirmer que les premiers vols pour le Rwanda partiront d'ici 10 à 12 semaines. Ce qui fait courant du mois de juillet, ça paraît effectivement assez ambitieux, voire très ambitieux, parce que si effectivement ce projet de loi, donc, qui a été adopté définitivement la nuit dernière, va rendre impossible les recours d'énormément de demandeurs d'asile au Royaume-Uni contre leur expulsion au Rwanda, au motif qu'effectivement le Rwanda est sûr, il n'empêchera pas probablement un grand nombre de recours de ces personnes pour des motifs personnels qui sont... maladie, rapprochement familial, orientation sexuelle ou tout un tas de raisons qui pourraient être jugées tout à fait recevables par des juges britanniques. Par ailleurs, il faudra que le gouvernement trouve des compagnies commerciales qui acceptent de faire voyager ces personnes jusqu'au Rwanda. Ça n'a rien d'évident. Rishi Sunak a dit que le gouvernement a trouvé un accord avec une compagnie. Il n'a pas donné de détails. Donc les médias britanniques en doutent un petit peu. Donc effectivement, on est loin encore d'avoir vu le premier avion décoller d'un aéroport britannique.
Et il y a de l'argent en jeu. Combien va payer le gouvernement britannique? Combien va donner le gouvernement britannique au Rwanda? Et pourquoi avoir choisi le Rwanda?
Jusqu'à présent, les sommes versées par Londres à Kigali sont à peu près 500 millions de livres sterling, ce qui est une somme considérable, sachant qu'il n'y a encore aucun demandeur d'asile qui a été envoyé au Rwanda. La plaisanterie que font beaucoup de médias britanniques, c'est qu'il y a plus de ministres de l'intérieur britanniques qui ont fait le voyage à Kigali que de demandeurs d'asile jusqu'à présent. Donc effectivement, c'est une somme considérable et elle pourrait grimper. Alors les termes de l'accord entre Kigali et Londres ne sont pas très très clairs sur ce point. Il y aura probablement des versements supplémentaires à mesure que des demandeurs d'asile vont être envoyés au Rwanda, s'il y en a. Mais voilà, c'est un accord qui est effectivement très coûteux. C'est probablement une des raisons pour lesquelles le Rwanda a accepté. Et par ailleurs, si le Rwanda a accepté, il y a beaucoup d'autres pays qui ont été approchés par le Foreign Office et par le ministère de l'Intérieur britannique et qui ont jusqu'à présent refusé.
Et pourquoi avoir choisi ce pays-là?
Alors, c'est une question à laquelle j'ai du mal à vous répondre, comme beaucoup d'autres journalistes britanniques. Bon, il y a des liens qui sont évidents entre les deux pays, qui sont deux pays du Commonwealth. Ça, c'est des choses qui peuvent rapprocher. Probablement un intérêt du Rwanda, d'abord à faire de l'argent, probablement aussi à des questions d'image de ce pays qui est économiquement très dynamique, qui a un régime très fort, qui est très soucieux de son image en Occident, et qui jusqu'à présent, effectivement, a déjà accepté d'accueillir en fait des demandeurs d'asile pour traiter leur dossier. Donc c'est un pays qui a déjà une certaine expérience en la matière et qui a pu vouloir l'exploiter plus avant avec Londres. Mais effectivement, sur les raisons profondes pour lesquelles le Rwanda a accepté, jusqu'à présent, on n'a pas d'explication très claire. Et par ailleurs, le gouvernement rwandais n'a pas non plus montré un enthousiasme fou ces derniers mois, tandis qu'il y avait cette discussion politique et même morale au Royaume-Uni qui était très intense sur la légitimité de cet accord. Et les autorités rwandaises ont même laissé entendre il y a quelques mois, au moment où la Cour suprême avait dit que l'accord était illégal, qu'il n'était pas question pour le Rwanda d'aller plus avant dans cet accord si effectivement les autorités judiciaires britanniques déclaraient qu'il n'était pas conforme au droit.
L'expulsion des migrants, ce sera ma dernière question, vers le Rwanda. Donc si ça se fait très prochainement, ce sera une première en Europe. En tout cas, l'adoption de ce type de texte, c'est une première en Europe. Est-ce que ça peut donner des idées à d'autres gouvernements occidentaux qui voient souvent arriver des migrants? Je pense à l'Italie ou même la France.
C'est probable, hein. C'est un des principaux arguments d'ailleurs du gouvernement britannique qui, outre qu'il avance le fait que... Il a signé cet accord et il a poussé ce texte de loi tellement controversé pour créer un effet repoussoir, un effet dissuasif fort sur les personnes qui veulent traverser la Manche, qui prennent des risques. On le voit encore...
Encore aujourd'hui avec 5 morts, oui, en France.
Tout à fait. Donc effectivement, cet argument est relativement recevable. Il y a un business des passeurs... Il y a de l'exploitation d'humains.
De la misère humaine.
Exactement, qui est absolument affreuse et condamnable. Mais bon, cet argument du gouvernement britannique était aussi exagéré, parce que de toutes les façons, les personnes qui voudraient rejoindre le pays n'ont pas d'autre moyen, malheureusement, depuis quelques années, que de tenter cette traversée extrêmement dangereuse du Channel. Mais effectivement... Il y a beaucoup d'autres pays qui ont la France, l'Italie, vous les avez cités, qui réfléchissent à des politiques migratoires restrictives. L'Italie a d'ailleurs signé avec l'Albanie assez récemment un accord, donc il ne va pas aussi loin que le Royaume-Uni, qui a un accord de sous-traitance de l'examen des dossiers d'asile, c'est-à-dire que les personnes, si elles sont recevables pour l'asile, seraient réfugiées en Italie et pas en Albanie. Mais effectivement, c'est un accord que regardent tous les autres pays. Et si Londres réussit à le rendre opérationnel à une grande échelle, donc à créer ce qu'ils appellent un effet dissuasif, ça donnerait évidemment des idées à beaucoup d'autres. Il faut quand même signaler qu'il y a un précédent ailleurs dans le monde, c'était l'Australie. Au début des années 2000, qui avait utilisé deux petites îles, hein, je ne me rappelle plus pour être très franche avec vous, c'était deux îlots en Océanie, très, très loin d'ailleurs des côtes australiennes, où elle repoussait systématiquement les personnes qui arrivaient en bateau sur ces côtes. L'expérience, entre guillemets, a été arrêtée au bout d'une dizaine d'années, dans les années 2010-2015. Pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce qu'elle donnait lieu à des drames humains. C'était des vraies prisons, ces petits îlots. Les gens sur place étaient dans un état de désespérance. Bon, c'était affreux, quoi. Il y a eu des cas de suicide, de maltraitance, etc. Et donc les gouvernements de l'époque ont fini par laisser tomber cette expérience. Donc il y a eu un précédent, mais qui n'était pas, on va dire, pas très conclusif.
Bah, je vous remercie beaucoup, Cécile Ducourtieu, correspondante à Londres pour le journal Le Monde, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Et merci à Perlam Sika pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au Titre à la Une. C'est tous les jours, du lundi au vendredi et tous les soirs sur BFM Radio à 19h30. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.